Le groupement des intellectuels aveugles et amblyopes présente à l'usage exclusif des auditeurs aveugles et amblyopes qui empruntent cet ouvrage. La nuit de la Saint-Sylvain par Madeleine Ley, L-E-Y, édition Fernand Nathan, collection Arc en Poche, Paris 1979. Première cassette, première page. L'histoire se passe en Flandre, en plein hiver. La mer est gelée. Et la nuit de la Saint-Sylvain, on fête le carnaval sur la glace. Tous les enfants sont heureux, sauf Barbara. Barbara a été malade et elle ne peut plus marcher. Elle se contente de regarder les autres glisser, danser et jouer aux meilleurs patineurs. À l'époque où vit Barbara, il y a 300 ou 400 ans, les Flandres sont un riche et puissant pays. Les navires à haute voile parcourent tous les océans et les gens les plus bizarres circulent dans le pays. Diseurs de bonne aventure, bourlingueurs qui connaissent les secrets des îles lointaines, amuseurs ambulants, corsaires aux coffres mystérieux. Chapitre 1er. Le petit homme habillé de jaune. Tous les clochers devenaient roses. Judocus Daas, J-U-D-O-C-U-S, D-H-A-E-S, était sorti de la ville, portant sa petite fille paralysée. Les autres enfants couraient avec des cris de joie sur les berges de fortifications. « Père, disait la petite Barbara, regardez, les nénuphars sont endormis, ils penchent leur tête sur l'eau noire. Croyez-vous qu'ils rêvent quand ils sont fermés ?» « Oh, père, regardez, voilà la fille de l'armateur, comme elle est belle. Elle a des perles sur sa coiffe. Est-ce qu'elle est mariée? À quel âge se marie-t-on? Père, vous ne répondez jamais. Pourquoi avez-vous l'air si triste? »
« Je ne suis pas triste, ma petite amie, » disait Judocus.
« Si, si, père, vous êtes triste, je le vois. Oh, écoutez, les cloches sonnent. Regardez, la lune est déjà levée. Quand elle nous quitte, où va-t-elle donc?
Où va-t-elle donc, ding, dong, où va-t-elle donc? Chantaient toutes les cloches.
Père, déposez-moi sur l'herbe. Je voudrais être assise. Je vous ennuie? Allez parler avec Eloy et Yoris Heller qui vous attendent là-bas. Je regarderai l'eau et les oiseaux et les personnes qui passent. Je me ferai une petite couronne de pâquerettes. Non, non, je n'ai pas froid. Judocus Daas alla rejoindre ses amis qui se promenaient lentement sur le pré en fumant leur pipe. La petite Barbara resta seule. Bientôt, elle vit arriver un homme habillé de jaune, suivi d'une bande d'enfants. Un bonhomme au visage bruni, au nez de polichinelle. C'était un de ces amuseurs ambulants qui jouent de la musique avec les pieds et les mains. Il soufflait dans un bugle, une espèce de trompette, agitant son chapeau de cuivre où tintaient des sonnettes. Avec son coude et ses talons, il faisait résonner la grosse caisse et les cymbales qu'il portait sur le dos. Les enfants avaient fait cercle autour du musicien. « Ne vous mettez pas devant Barbara Daas !» criait une grande fille. « Vous l'empêcheriez de voir. Allons, écartez-vous !» Bientôt, chacun fut en place et immobile. Le musicien s'était mis à jouer sérieusement. Quel étrange personnage! Son costume jaune usé avait des pointes rembourrées aux épaules et des morceaux de miroir brillaient, cousus sur l'étoffe. Barbara n'avait jamais vu un chapeau semblable, un chapeau de cuivre couvert de sonnettes et pointu comme un pain de sucre. L'homme gonflait ses joues pour souffler dans le bugle. Pan, pan, il donnait des coups de pied dans le gazon, les cymbales s'entrechoquaient gaiement derrière son dos et une petite poupée pirouettait au-dessus, gonflant sa jupe de tarlatane rose. Quand il eut fini, il demanda des sous. Presque tous les enfants avaient une petite pièce à lui donner. Puis ils s'en allèrent parce que le soir était venu. Le musicien s'assit au bord de l'eau. « Et toi, tu restes ici ?» demanda-t-il à Barbara.
«
je ne peux pas marcher, dit-elle. Oh, ma pauvre petite fille. Mais vous avez si bien joué, monsieur. Je n'ai pas de sous et mon père est loin au bout du pré. Mais voici les boutons de mes manchettes, prenez-les. Je crois qu'ils ont coûté cher. Avec cela, vous pourrez vous acheter beaucoup de pain et même de la dinde rôtie. Elle avait enlevé ses boutons d'or et les lui tendait. Garde tes bijoux, petite fille, dit l'homme. Sois bénie, et que tes parents soient bénis. C'est moi qui te donnerai quelque chose, car je suis magicien. Écoute ce que je te donne. Une nuit dans l'année, celle que tu choisiras, tu pourras te lever, aller où tu voudras, et même courir comme les autres enfants. Dis, quelle nuit veux-tu ? La nuit de la Saint-Jean pour danser autour des feux de joie ? La nuit de Noël pour aller à pied à l'église ? Ou celle de la Saint-Nicolas pour entrer dans les boutiques de la ville sur tes deux petites jambes ? Choisis. Barbara avait pâli. Elle réfléchit un instant. C'était le patinage que je préférais, dit-elle enfin, et des larmes coulèrent sur ses joues. Et pour patiner, quelle nuit de l'année choisis-tu ? Allons, décide-toi. Eh bien, dit la petite fille en essuyant ses yeux, je choisis la nuit de la Saint-Sylvain, parce qu'alors il gèle noir et il y a le carnaval sur la glace. Je pourrais patiner, mon Dieu, ce n'est pas vrai. Mais je ne vais pas mourir avant. Sainte Vierge Marie, protégez-moi. N'en parle à personne, dit l'étrange petit homme. À personne, entends-tu ? Sinon tu perdrais le charme. La nuit de la Saint-Sylvain, n'oublie pas. Quoi qu'il arrive cette nuit-là, ne t'étonne de rien. Au revoir. Il avait détaché les fils de ses cymbales. Il s'éloignait en sautillant et toutes les sonnettes tintaient sur son chapeau de cuivre. Eh bien, ma petite fille, comme vous êtes devenue rêveuse, disait Judocus d'As, en portant la petite Barbara vers la maison. Le ciel était plein d'étoiles. Il semblait à Barbara qu'elle brillait déjà comme par une claire nuit de gel. Bercée au pas de son père dans le noir, elle comptait tout bas les mois qui la séparaient de l'hiver. Chapitre 2. Le miracle de la Saint-Sylvain. Judocus et Mathilde Das habitaient sur la grande place de la ville. Assise tout le jour au balcon de leur maison dorée, Barbara regardait le ciel et les clochers. Les hirondelles volaient d'un toit à l'autre en poussant des cris aigus. Les marchands lançaient leurs appels dans les rues et le soleil pénétrait dans la chambre, faisant briller les cadres d'or, le miroir sphérique où l'on se voit si petit, les coquillages roses et la volière de cuivre toujours ouverte où se balançaient les perruches apprivoisées. Mais l'enfant aurait donné toutes les jolies choses qu'elle possédait pour hâter la course des jours. Ce fut une belle année. Il n'y eut presque pas de pluie. En été, Judocus payait Adam et Ève dans le jardin du paradis, entouré de tous les animaux. Et en automne, il fit le portrait de sa servante Cathy qui souriait, tenant un lièvre mort par les oreilles. Le soir, il portait la petite Barbara dans son atelier et lui montrait son travail. Elle regardait, en serrant sa joue contre celle de son père, et donnait gravement son avis. Il y avait eu le cortège de la moisson, et puis celui de Notre-Dame-des-Sables. On avait vu passer sur la grand-place le cheval Bayard, monté par les quatre fils Aymon, et la Vierge Marie elle-même, venue par la mer, dans un bateau de bois, pour effacer tous les péchés des hommes. Paix à la terre et gloire aux cieux, chantaient les petits enfants qui portaient des cierges par les rues. En novembre, il fallut quitter la fenêtre. On alluma du feu dans la chambre de Barbara. Pour la distraire, on lui acheta un petit oiseau étranger, couleur de rubis, qui ne mangeait que du miel. Mais il mourut bientôt. Elle pleura et n'en voulut pas d'autre. Un matin, en s'éveillant, elle vit les toits fourrés de neige. Le ciel était brillant comme la nacre, et tous les bruits paraissaient venir du bout du monde. En décembre, il y eut de la pluie. Ensuite, le sol regela et il tomba de nouveau de la neige. Assise dans un coin de l'atelier, Barbara écoutait parler les peintres et les poètes et les marins qui ont vu la croix du sud de l'autre côté de la terre. Lorsque les fêtes de Noël furent passées, et puis le nouvel an, et que la Saint-Sylvain approcha, elle se sentit aussi tranquille que les étoiles de la nuit. Elle se résignait. « Comment ai-je pu croire à tout cela ?» pensait-elle. « Pauvre Barbara, tu resteras comme tu es, avec tes jambes paralysées. Il n'est possible ni à Dieu ni au diable d'y changer quelque chose. » On avait passé la Saint-Ignace, la purification et le mercredi des cendres. Maintenant, il n'y avait qu'un léger voile de neige sur la ville, mais il gelait à pierre fendre. On arrivait à grand-peine à chauffer la maison. Barbara entendait raconter qu'on patinait sur tous les canaux, et même sur le fleuve. Enfin, la veille de la Saint-Sylvain arriva. Une aube rose où flottaient quelques étoiles de givre détachées des fenêtres. « Mère, dit Barbara, irez-vous point patiner ce soir tous les deux comme au temps de votre jeunesse ? C'est fête sur la glace. » « Nous préférons rester près de toi, Barbara, ma chérie. »« Mère, mettez-moi mon manteau de mars. »« Merci. Ouvrez la fenêtre. Portez-moi, s'il vous plaît. Je veux voir les enfants. Je veux m'asseoir sur la fenêtre. »« Comme cela. Merci, maman. » Bientôt, elle vit passer des garçons qui revenaient à travers la ville portant leurs patins. « Il gèle noir, petite Barbara, dirent-ils. Ce soir, nous retournons sur le fleuve. Ce sera la grande fête. » Il y aura un homme qui cuit des gaufres en dansant sur la corde et qui les jette aux patineurs. « Amusez-vous bien !» criait Barbara. Sa voix fraîche tremblait et se brisait dans le vent d'hiver. La lune argentait les toits. 8 heures sonnaient aux 13 clochers de la ville. « Est-ce que j'ai dormi ?» pense Barbara, assise toute droite dans son lit. « Est-ce que je rêve ?» Elle voit étalé sur sa couverture un petit costume vert bordé de fourrures d'oiseaux, de ravissantes bottines rouges en chevreau glacé et 2 patins neufs dont les trous d'argent brillent au clair de lune. Elle met un pied hors du lit et l'appuie prudemment sur le plancher. Sainte Vierge, ses jambes la portent. Elle se sent à droite et forte comme autrefois. Jésus, Marie, Reine des cieux, murmure-t-elle. « Ce sera vrai !» L'enfant s'habille en silence. L'adorable costume lui va à ravir. « Adieu, mes oiseaux endormis. Adieu, ma petite chambre. » Elle descend comme une fée les escaliers de pierre et de bois. Personne ne l'entend sortir. Elle se met à courir dans la rue déserte et noire, ses patins à la main. Il fait froid, mais c'est un froid sec et agréable. Et il n'y a pas un souffle de vent dans l'air. La lune éclaire tout comme en plein jour, et le ciel est blanc comme du lait à cause du nombre infini des étoiles. Maintenant, les hivers ne font plus tant de glace et la terre tournera longtemps sans doute avant que ne reviennent ces saisons d'autrefois où les canaux restaient pris pendant 10 semaines entre 2 bordures de roseaux étincelants de givre quand les paysans remontaient les fleuves jusqu'aux villes dans des traîneaux verts et rouges pour les fêtes nocturnes du mois de février. Quelle glace épaisse, pensait Barbara en arrivant au bord du canal, dure comme la pierre, et si noire, si brillante. Où étaient les poissons, les nénuphars et les belles grenouilles de l'été? Ce jour-là, presque tous les gens de la ville se retrouvent sur la glace, où les lampions se reflètent avec des halos de couleurs. Du centre lumineux de la fête, une rumeur arrivait, et partout alentour, on entendait sonner les grelots des attelages et crier les fers des traîneaux sur la neige durcie. Parfois, des jeunes gens déguisés et masqués s'approchait du bord en lançant des appels joyeux. Barbara attacha ses patins. Elle tremblait d'impatience et aussi de crainte. Pourrait-elle se tenir dessus comme toutes ces fillettes robustes? Mais dès les premiers pas au bonheur, elle se sentit emportée sans effort sur la glace noire et lisse. Bientôt, elle fut entourée d'une troupe d'enfants costumés. « D'où viens-tu, petite fille verte ? » criait-il. « Quel beau petit manteau vert avec de la fourrure d'oiseau. Oh, comme tu patines bien !» Rose de froid, elle souriait et glissait sans répondre, appuyant sa bouche contre son manchon de cuir. « Oh, mais c'est toi, Barbara Das !» cria d'une petite fille. « Tu es donc guérie, viens patiner avec nous. » Elle les suivit, ivre de joie. Elle luttait de vitesse, les dépassait tous, puis revenait à leur rencontre après avoir tourné gracieusement sur un seul pied. Sainte Vierge des Neiges, c'était comme autrefois. C'était le bonheur retrouvé. Il ne fallait songer ni à demain, ni à hier. Seulement glisser, glisser toujours plus vite sur ce cristal noir, s'enivrer de vitesse et de froid. La nuit était d'un bleu profond. On voyait au loin les tours de la ville, dans une vague clarté. Barbara entendit sonner 10 heures. Elle s'aperçut qu'elle avait quitté les autres enfants. Elle avait dépassé les derniers patineurs. Elle s'éloignait, loin des lumières et des bruits, sur le grand fleuve gelé. Vite, plus vite! Barbara n'avait jamais été aussi vite, non jamais. Elle volait comme un oiseau sauvage. La ville avait disparu, il y avait des campagnes plates, noires et désertes. Et bientôt, elle n'aperçut plus du tout les rives. Elle était seule, entre la glace et le ciel étoilé. Chapitre 3. Le trésor du corsaire. Au tournant du fleuve, là où il se divisait pour aller se jeter plus loin encore dans la mer, elle arriva devant une forme noire qui barrait le ciel et cachait une partie des étoiles. C'était un navire pris dans les glaces. Oui, c'était un bateau à trois mâts de forme ancienne avec une sirène à la proue. Les voiles pendaient à demi carguées, toutes raidies par la gelée. Sur les vergues et les cordages, le givre brillait vaguement à la lueur des astres. Tout se taisait à bord. Serait-ce un navire abandonné ? Se demandait Barbara. Elle aperçut une petite échelle étroite accrochée contre la coque. Alors, elle délassa les courroies de ses patins, les prit à la main et monta prudemment sur le pont. Il était désert aussi. Tout le bateau reposait dans le plus profond silence. Une lueur venait d'un réduit. Par la porte ouverte, Barbara vit des matelots endormis dans leur couchette, sous une chandelle fumeuse. L'un d'eux ronflait la bouche ouverte, enroulé dans une couverture. On voyait briller des anneaux d'or à ses oreilles. Elle eut peur et s'éloigna en étouffant ses pas. Elle arriva devant une autre porte, une petite porte d'acajou ornée de dauphins affrontés. Elle frappa. Personne ne répondit. Alors elle fit tourner l'anneau. La porte s'ouvrit en silence et Barbara sentit l'odeur d'un très bon repas. Il y avait 3 marches à descendre. Elle se trouva dans une chambrette au mur de bois précieux, éclairée par une lampe suspendue au plafond. Sur un lit étroit, devant une table chargée de plats et de flacons, un capitaine était endormi. C'était un homme grisonnant, vêtu d'un costume de velours flétri. Il avait retiré ses bottes et dormait, les jambes croisées, les mains sous la tête, parmi les coussins en désordre. Barbara inspecta du regard toute la cabine au plafond courbe. Il faisait tiède et bon. Enfin, comme le capitaine dormait toujours, elle s'approcha de la table et coupa prudemment un morceau de pâté. Elle avait grand faim. Mais son couteau tinta contre un verre. Dormeur se redressa en écarquillant les yeux et blasphéma en français le saint nom de Dieu et celui de la Vierge. « Oh, pardon, messire, je vous éveille !» dit Barbara. Elle lui parlait sans crainte, car il n'était pas très différent des amis de Judopis, de tous ceux qui venaient fumer dans l'atelier le dimanche en parlant de leur voyage. Certainement, le capitaine croyait rêver. « D'où sors-tu, petite fille ?» demanda-t-il en se frottant les yeux. Elle pensa qu'il valait peut-être mieux ne pas le dire. Et levant son index, elle répondit « Je viens du ciel. » « Ah !» dit-il avec un sourire. « Et c'est au ciel qu'on t'a donné ce beau petit costume ?»«
Oui, messire. » »«
Et comment t'appelles-tu sur la terre ?»«
Barbara, messire. » »«
Eh bien, Barbara, je crois que je vais te faire reconduire chez tes parents. »
J'ai tout le temps jusqu'à l'aube. Vous êtes fâché ? J'avais frappé avant d'entrer. Comment vous appelez-vous, messire ?
Je suis le diable.
Elle sourit d'un air incrédule. Et ce bateau vous appartient ?
Oui, il est à moi, avec toutes les choses qui sont dedans.
Est-ce qu'on peut visiter votre bateau ?
Oh non, c'est défendu, ma petite.
Il souriait maintenant, penché par-dessus la table. Son visage pâle et bizarre surprenait le cœur. Et Barbara sentit que ce capitaine était un ami.
Mais sire, dit-elle, je vais vous dire tout, si vous me jurez sur le Christ que vous ne le répéterez à personne au monde.
L'homme réfléchit un instant.
Je veux bien, petite fille, dit-il, je te le promets.
Eh bien, messire, ce sera un secret à nous deux. Écoutez, voici la vérité. Pendant toute l'année, je suis paralysé. Pendant toute l'année et pour toute ma vie, je crois. Mais grâce à un charme, je peux aller et venir une nuit par an. Une seule nuit. Celle-ci, la nuit de la Saint-Sylvain. Alors il faut me montrer tout ce que vous avez de beau à voir, n'est-ce pas? Et je prierai pour votre âme tous les jours que Dieu me laissera vivre.
Oh, dit le capitaine, il te faudra prier beaucoup.
Mais tu ne peux marcher qu'une nuit par an.
Et le reste de l'année, que fais-tu, ma pauvre petite?
Je regarde travailler mon père. Je regarde le ciel et les clochers. Je sais faire de la dentelle avec 300 fuseaux. Et puis, je pense.
Et personne ne sait que tu es venu jusqu'ici?
Non, messire.
Il se grattait la barbe en ouvrant la bouche. Il réfléchissait.
Écoute, dit-il à voix basse, je vais aussi te confier un secret. Un grand secret.
Jure-moi sur le Christ que tu ne le répéteras à personne au monde.
Je le jure sur le Christ et sur la Sainte Vierge, dit Barbara.
Eh bien, écoute, mon nom est Jean des Brûlots.
Voilà, maintenant tu sais qui je suis.
Barbara se leva toute droite et recula vers la porte.
Ah, dit-il en souriant, tu as peur à présent. Tu as entendu parler de Jean des Brûlots?
On m'a dit que vous étiez un méchant homme et que les navires de l'archiduc courent après le vôtre pour vous tuer.
Ne t'enfuis pas, je t'aurai vite rattrapé. Trouves-tu que je l'ai l'air méchant?
Non, messire.
Écoute, j'ai ton secret et tu as le mien. Crois-tu que je voudrais faire du mal à une petite fille bonne et sage comme toi?
Veux-tu voir mes trésors? Oui, dit-elle un peu rassurée.
Viens, et quand tu seras grande et que je serai mort, tu raconteras que Jean des Brûlots t'a montré toutes ses richesses, à toi seul.
Sans remettre ses bottes, il ouvrit silencieusement ses portes. Barbara le suivit dans l'intérieur du bateau. C'était un réduit bas de plafond, tout en arc et en courbe, qui sentait le goudron et le camphre. Le capitaine s'arrêta devant trois coffres aux ferrures rouillées, aux coins usés et cassés. Il renversa le couvercle du premier.
Regarde, dit-il, ici c'est l'ambre, A-M-B-R-E. Le coffre était plein d'énormes morceaux d'ambre. Il y avait de l'ambre brut et de l'ambre poli. Il y avait des barres d'ambre, de l'ambre en boule, en perles, en châteaux, de l'ambre doré de la Baltique et dans l'ambre noire de Turquie. Et enfin, une énorme plaque transparente comme le miel frais, où tout un vol d'insectes était prisonnier.
Eh bien, qu'en dis-tu?
Barbara était émerveillée, mais elle haussa les épaules.
Mon Dieu, dit-elle d'un air indifférent, dans les boutiques du quartier juif, on peut voir de l'ambre aussi beau que celui-ci. Alors regarde les perles.
Il ouvrit le second coffre.
Les perles rayonnaient sur un lit de soie matelassée. Il y en avait des jaunes, des roses, des bleutées, des violettes. Mais les blanches étaient les plus belles. Leurs contours indécis avaient quelque chose de mystérieux, de vaporeux, comme si elles étaient nées de l'écume, de la neige. Même, on aurait pu les croire d'origine céleste. Barbara les contemplait en silence.
Eh bien, qu'en dis-tu?
Elle n'avait jamais rien vu de pareil. Il lui venait un grand désir de prendre au creux de sa main une de ces perles merveilleusement lisses, mais elle haussa les épaules.
Mon Dieu, dit-elle d'un air indifférent, des perles sont des perles, et il y en a au cou de ma mère qui ont un aussi bel orient.
Jean des Brûlots,
parut très mécontent de cette réponse. Regarde, dit-il, en ouvrant le troisième coffre. Ici, ce sont les pierres précieuses. Barbara et Louis faillit crier d'admiration. Regarde, voici deux diamants. Il n'y en a pas de pareils au monde. L'un s'appelle le soleil des mers et l'autre la lune des montagnes. Voici les hyacinthes qui préservent de la foudre et les turquoises qui protègent les cavaliers de tous les accidents. Et voici le saphir, la plus admirable de toutes les pierres car il fait tomber les murs des prisons et guérit la mélancolie. Regarde, voici l'écume pétrifiée. Elle est née des flots en étant très ancien, quand les serpents de mer fouettaient les vagues avec sa queue. Voici le corail. À le voir, on ne saurait dire si c'est une pierre, une fleur ou un animal. Le corail rose s'appelle peau d'ange et le rouge, fleur de sang. Et j'ai aussi du corail noir. Voici l'aventurine, l'œil de chat et l'œil de tigre. Regarde, regarde, voici l'opale de feu que j'ai prise sur un navire espagnol coulé dans la mer du Nord. Voici le rubis du roi de Burla qui a été volé aux Indes. Un marchand de Calais avait mis toute sa fortune dans cette petite chose. Oserais-tu le toucher? Regarde, il est comme du charbon qui brûle au soleil. Voici le saphir d'eau qu'on appelle aigle marine, et la topaze dorée qui devient rose quand on la chauffe. Toi qui habites la ville des marchands de diamants, petite fille, tu dois les aimer, ces pierres. Non seulement elles vivent, mais certaines souffrent la maladie, la vieillesse et la mort. Et les bijoux? Regarde ce pentacole d'or et d'émail. Tu vois, c'est un dragon aux ailes déployées. Son corps est fait d'une seule grosse perle et ses ailes sont des ouvrages d'une telle finesse qu'il me faudrait une loupe pour t'en montrer tous les détails. Qu'en dis-tu? C'est beau, Seigneur, dit Barbara tout émue. Mais je voudrais voir plus encore. Je voudrais voir ce que vous avez de plus précieux.
Ha ha! Satanée petite fille, dit-il en riant. Tu le verras si tu parviens à répondre à mes questions. Devine d'abord une énigme qui se rapporte à toi. Quelle est la chose la meilleure et la pire?
Ah, mais sire, dit Barbara en rougissant de joie, si vous ne m'aviez pas dit que cela se rapportait à moi, je ne l'aurais jamais deviné. Mais maintenant je le sais. C'est la curiosité.
C'est juste, dit le capitaine d'un air mécontent. Et quelle est la chose la plus précieuse et qui ne coûte rien?
Il y a longtemps que mon père me l'a appris, s'écria Barbara. La chose la plus précieuse et qui ne coûte rien, c'est de la pluie dans la sécheresse de l'été.
Petite diablesse, tu sais tout!
Et il se mit à rire comme s'il était certain de la comprendre.
Qu'est-ce qu'un arbre? Demanda-t-il.
Cette fois, Barbara réfléchit plus longtemps. Elle faillit répondre, c'est le plus grand des... Elle se souvint qu'elle avait vu sur les dunes au bord du fleuve des saules rabougris qui n'avaient pas plus d'un pouce de hauteur. C'est une plante en bois, dit-elle enfin.
Sacré Dieu, tu l'as dit, s'écria Jean des Brûlots. Tu as dit tout ce qu'il fallait dire et rien de plus.
Tu es ingénieuse comme la femme et prudente comme l'homme. Je crois que je vais te montrer mon miroir, à toi seul. Mais attends, attends, encore une énigme. Quelle est la chose que je pense à l'instant même?
Mais sire, cria Barbara, je le sais. Vous pensez que je ne pourrai jamais vous répondre. Ah, ah, je suis vaincu, dit le capitaine en éclatant de rire. Très intelligente petite fille. Viens par ici et tu verras ce que personne n'a jamais vu encore.
Fin de la première cassette de la première face de la nuit de la Saint-Sylvain par Madeleine Lay, page 40.